est une rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La dérive ultra-conservatrice se poursuit en Pologne, surtout depuis que le parti Droit et Justice, le PiS, de Jarosław Kaczyński, a remporté la majorité absolue aux dernières élections législatives en octobre dernier. Et la bataille se concentre en ce moment sur l'éducation sexuelle. La Diète discute actuellement d'un projet de loi qui pourrait punir de 3 ans de prison toute personne qui donne des cours d'éducation sexuelle à l'école. Stop pédophilie, les associations ultra-catholiques qui estiment que cet enseignement déprave la jeunesse, de quoi démoraliser tous les intervenants scolaires que Thomas Giraudeau a rencontrés à Varsovie.
Jamais Michał Maciejak n'aurait pensé que donner des cours d'éducation sexuelle du primaire au lycée, comme il le fait depuis 6 ans, pourrait l'amener tout droit en prison. C'est pourtant ce qui pourrait arriver si le projet de loi dit stop pédophilie est adopté en l'état.
J'ai peur, tout simplement. Ce projet de loi est tellement ambigu. On peut nous reprocher tout ce que l'on fait dans les écoles. Tout peut être pénalisé. En plus, pour nous, c'est encore plus difficile car nous ne sommes pas que des professeurs d'éducation sexuelle. Nous avons un travail à côté, comme professeur ou psychothérapeute. Beaucoup d'entre nous hésitent à continuer de donner des cours. Est-ce que cela a encore du sens si on risque si gros ?
Depuis plusieurs mois déjà, Michał Maciejak et les autres éducateurs de sa fondation, nommée Spunk, ont plus de mal à entrer dans les écoles. Les parents d'élèves, parfois influencés par des associations ultra-conservatrices, s'opposent à leur venue, comme ils en ont le droit. Michał a pourtant construit ses cours sur les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé.
On dit aux plus jeunes enfants qu'aucun adulte n'a le droit de les toucher. Seulement leurs parents et leurs médecins. Ensuite, pour les enfants un peu plus âgés, on explique aux garçons qu'ils ne doivent pas avoir certains comportements. Et on dit aux filles que les garçons n'ont pas le droit de les toucher si elles ne le veulent pas. On parle aussi des maladies sexuellement transmissibles, des moyens de contraception et des orientations sexuelles. On leur dit que ceux qui ne se sentent pas hétérosexuels ne doivent pas avoir peur, qu'ils ne peuvent pas renier leur orientation sexuelle.
Les auteurs du projet de loi considèrent que tout cela, tout cet apprentissage, dépraverait les enfants, encouragerait même l'homosexualité.
Tout le monde a le droit à la connaissance, au savoir. C'est forcément mieux d'apprendre toutes ces informations concernant la sexualité de la part de personnes compétentes et assermentées, plutôt que sur Internet, en regardant des films pornographiques. Paradoxalement, je crois que les cours d'éducation sexuelle découragent davantage qu'ils n'encouragent au sexe.
Des justifications insuffisantes pour Ordo Iuris, cet institut et lobby ultra-conservateur soutient le texte pénalisant l'éducation sexuelle. La loi suprême polonaise est de leur côté pour Bartosz Zalewski, juriste chez Ordo Iuris.
L'article 72 de la Constitution polonaise stipule que toute personne peut exiger la protection des enfants de la dépravation et de l'immoralité. Et nous savons qu'une initiation, une éducation sexuelle précoce n'est pas bonne pour les mineurs. Mais ces éducateurs apprennent aux enfants que la masturbation, c'est bien. Je ne suis pas sûr que cela soit bon et que les parents soient d'accord.
Selon lui, ces cours seraient dangereux et donc à bannir, d'autant qu'il existe déjà dans les écoles polonaises des leçons d'éducation à la vie familiale.
Ma fiancée donne ses cours, donc je sais ce qu'il y a dedans. Et je peux dire qu'il y a tout ce qui est nécessaire. L'apprentissage du corps humain, la responsabilité de vivre ensemble, le respect mutuel entre un homme et une femme, ça c'est de la connaissance. Davantage de parents devraient autoriser leurs enfants à assister à ces cours de préparation à la vie familiale.
Thank you very much.
Ces leçons représentent 14 heures par an du primaire au lycée. Elles sont obligatoires, sauf si les parents refusent que leurs enfants y participent. Dans le programme officiel de ces cours, la contraception et la masturbation sont mal vues et ces leçons sont parfois données par des prêtres. Antonina Lewandowska du planning familial donne des cours d'éducation sexuelle dans des lycées depuis 5 ans. Attaquée par les ultra-conservateurs, elle a répondu à toutes les accusations sur le site de l'association.
On présente juste aux jeunes des faits, des chiffres, des connaissances basiques sur leur corps. Ce qu'ils décident d'en faire, c'est leur responsabilité. On ne dit pas aux jeunes qu'ils doivent participer à des orgies de masse ou prendre des pilules contraceptives comme si c'était des bonbons, c'est dingue.
Et son travail lui semble d'autant plus nécessaire que les adolescents manquent manque cruellement de connaissances basiques.
J'ai entendu tellement d'histoires. Si je fais l'amour debout, je ne tomberai pas enceinte car le sperme va juste tomber par terre. Nous sommes ceux qui répondent aux questions des jeunes, qui leur parlons sur notre hotline, quand ils pleurent, quand ils ont peur. J'ai parlé avec une jeune fille qui avait tellement honte, qui détestait à tel point son corps qu'elle voulait découper son utérus, parce qu'elle pensait qu'avoir ses règles était sale. Quand vous parlez aux enfants, c'est déchirant. Ils sont complètement perdus, ils n'ont aucune idée de leur sexualité. Quand vous essayez d'introduire un projet de loi comme celui-là, ce n'est pas pour le bien des enfants, mais pour leur mal.
La Pologne connaît depuis quelques années une augmentation des cas de syphilis, mais aussi de VIH. Moins de 10% des adultes auraient fait un test de dépistage au moins une fois dans leur vie, contre 80 à 90% en Europe de l'Ouest.
Et dans les Balkans, en Croatie, l'Église catholique mène un combat en tout point similaire, mais qui rencontre curieusement beaucoup moins d'opposition. Il n'y a toujours aucun cours d'éducation sexuelle à l'école croate. Et depuis 2013, les gouvernements successifs n'ont pas osé introduire une réforme du programme. Simon Rico.
La dernière tentative remonte à il y a déjà 7 ans. Au printemps 2013, le gouvernement de centre-gauche, emmené à l'époque par Zoran Milanovic, qui vient de se faire élire président, avait tenté d'introduire 3 petites heures de cours d'éducation sexuelle à l'école publique. L'objectif ? Donner quelques clés de compréhension de base sur la sexualité. Immédiatement, l'église croate était montée au créneau, demandant rien de moins que l'organisation d'une nouvelle tempête, du nom de l'opération militaire menée victorieusement par l'armée croate en 1995 contre la Serbie de Slobodan Milošević. Pour justifier cette nouvelle croisade, le très réactionnaire clergé catholique expliquait que les intentions cachées des promoteurs de l'éducation sexuelle étaient l'endoctrinement des enfants avec l'idéologie homosexuelle et l'érotisation. Pendant ce temps, d'immenses affiches recouvraient la Croatie, barrées du slogan « Jovanovic », le patronyme du ministre de l'Éducation, « Au nom de Dieu, laisse nos enfants en paix ». Le gouvernement social-démocrate avait tenu bon, mais au bout de 3 mois d'un bras de fer homérique, la justice croate avait fini par donner raison à l'Église. Pour beaucoup, cette décision rapide et brutale de la Cour constitutionnelle a d'ailleurs marqué le début de la révolution conservatrice en Croatie, c'est-à-dire du retour en force des courants néoconservateurs proches de l'Église. Depuis, cette sphère réactionnaire multiplie les attaques contre les droits des femmes, à commencer par le droit à l'avortement, et contre les minorités sexuelles accusées de pervertir la société croate. Pour faire avancer ces idées, cette mouvance d'extrême droite a s'appuyé sur de puissants réseaux politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État. Leur influence est telle que depuis 2013, personne n'a osé reparler d'éducation sexuelle à l'école dans le petit pays.
Et la France peut mieux faire. Depuis 2001, la loi prévoit 3 séances d'éducation à la sexualité par an, du primaire jusqu'au lycée, au programme la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, la puberté, les préjugés sexistes et homophobes. Mais près de 20 ans plus tard, cette loi n'est pas complètement appliquée, Léa Lisa Westerhoff.
En 2016, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes réalise une enquête et son constat est sans appel. 25% des écoles élémentaires et 11% des lycées déclarent ne dispenser aucune séance d'éducation sexuelle, idem pour 4% des collèges. Pourquoi ? Le premier problème, c'est le manque de formation du personnel de l'éducation nationale pour assurer ses cours. En primaire, c'est aux professeurs des écoles de le faire. Or, la plupart se disent démunis, pas formés pour expliquer la sexualité à de jeunes enfants. Même difficulté au collège et au lycée, où du coup des associations sont invitées à assurer ce cours, mais avec des propositions totalement disparates et souvent inadaptées selon ce rapport. Autre difficulté, quand l'éducation à la sexualité est faite, elle se concentre sur la reproduction sans aborder les questions plus sociétales mais tout aussi cruciales d'égalité entre filles et garçons, de harcèlement ou d'orientation sexuelle par exemple. Résultat, selon cette enquête réalisée auprès de 3000 établissements scolaires en 2016, 84% des filles de 13 ans ne savaient pas comment représenter leur sexe alors que la moitié d'entre elles savent représenter le sexe masculin. Enfin, une adolescente de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. Ce chiffre a fait émerger une autre polémique, celle de la représentation du clitoris dans les manuels scolaires. En 2017, seul un manuel sur huit représentait l'organe génital féminin dans son intégralité. Depuis 2019, 5 livres de SVT de seconde contiennent un schéma correct, preuve qu'il y a encore un sacré bout de chemin à faire pour que les 12 millions de jeunes Français scolarisés soient correctement informés.
Parce que le phénomène n'est pas seulement français, on utilise un mot anglais, l'agri-bashing, cette nouvelle colère des citoyens envers les agriculteurs. Trop cruel envers les animaux, trop peu respectueux de la nature, trop gourmand en pesticides, la liste des griefs est longue. En décembre, la gendarmerie nationale française a ouvert une cellule spéciale pour lutter contre les intrusions dans les exploitations agricoles et on a recensé 71 actions l'an dernier menées par des militaires anti-viande. Pour renouer le dialogue entre les habitants, néo-ruraux ou pas d'ailleurs, et les paysans, des agriculteurs ont ouvert une ligne téléphonique, un numéro vert intitulé « Ici la terre ». Ils entendent répondre directement aux critiques. C'est le reportage d'Alexis Bédu.
Oui, allô, bonjour, ici la terre.
Oui, bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler.
Le bio, les conditions d'élevage, sans tabou, tous les sujets sont évoqués, même les plus controversés comme le glyphosate. Le thème numéro un de ces appels, ce sont d'ailleurs les pesticides. Exemple avec cette jeune femme enceinte qui s'interroge sur certains effets de ces produits sur sa santé.
Donc moi, ma question, c'est de me dire, je suis entourée de gens et j'ai vraiment peur, en fait, de tous les produits qui mettent... Donc est-ce que vous pourriez m'aider, enfin, pas m'aider, mais au moins...
Non, mais pour
échanger ce que vous pensez par rapport à ça.
Pour la question de l'exposition, évidemment, sur les doses qui sont faites, la manière et surtout les outils que l'on a, fait qu'elle est plus que minime vis-à-vis du voisinage et de l'entourage.
Depuis septembre dernier, une centaine d'agriculteurs se relaient au téléphone pour répondre aux interrogations à l'origine de cette initiative de paysans de région parisienne.
Cette grande grange, elle sert à stocker du fourrage, du matériel. C'est aussi l'endroit où il y a l'atelier, où on fait les réparations des machines.
Olivier Coupry est cultivateur de blé, orge, colza et éleveur de chevaux à 45 km à l'ouest de Paris.
On fait ça parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on discutait avec nos amis ou en famille ou avec des voisins qui nous posaient des questions sur notre métier, avec souvent des a priori assez négatifs sur notre façon de produire, et qu'on leur expliquait concrètement ce qu'on faisait, ils étaient rassurés. Les agriculteurs généralement sont plutôt bien aimés par la population française, mais l'agriculture française est assez décriée par certaines ONG, certains politiques, et donc on voudrait rétablir une certaine vérité, faire une sorte de circuit court de l'information par rapport à nos pratiques agricoles.
L'exploitation d'Olivier Coupry est située dans une zone proche de la capitale où de nombreux néo-ruraux sont venus s'installer. Avec ces nouveaux habitants, comme avec les anciens, des tensions peuvent naître. Des riverains, inquiets des pesticides qu'il utilise, ont d'ailleurs lancé une pétition contre lui.
J'ai essayé de tenter un dialogue et puis ça a été un petit peu difficile. Au début, un refus de leur part de chercher à comprendre. Et puis finalement, avec la mairie qui a été un peu médiateur, on a pu se rencontrer et expliquer et mieux se comprendre. C'est un peu difficile d'un point de vue personnel parce que autant moi j'aime bien parler de mon métier en termes pédagogiques, etc. Autant d'avoir ce regard pesant autour de nous, complètement accusateur. On est déjà coupable avant d'avoir pu expliquer les choses. Humainement, c'est un peu dur. Donc c'est aussi voilà, dans la démarche du numéro vert, voilà, on veut détendre un peu cette crispation qu'il y a et expliquer simplement en tant que professionnel comment on travaille.
Il y avait 3 millions de fermes en France en 1945, il n'en reste plus que 440 000. Les agriculteurs ne sont plus maîtres des campagnes, selon Jean Viard, sociologue, auteur du livre « Le sacre de la terre », et la cohabitation avec les nouveaux habitants n'est pas simple.
Le gros problème, c'est que la paysannerie française a été politiquement majoritaire jusqu'à l'après-guerre. C'est très difficile d'avoir été une classe majoritaire et devenir une classe minoritaire. Quand ils parlent, ils ont l'impression qu'ils influencent complètement la société. La vérité, c'est que ce n'est plus vrai. Il ne suffit pas de dire, ah ben nous, on est paysans, on est légitimes, donc on vous mettait le produit. Non, il faut discuter avec les gens. Moi, là où j'habite, par exemple, c'est une zone de vignoble. Petit à petit, on s'est mis à me réveiller un mois par an, toutes les nuits. Mais personne n'a jamais vu m'expliquer pourquoi est-ce qu'on vendangeait la nuit. C'est pas logique. Ça aurait été tellement simple de faire une réunion à la salle des fêtes, d'expliquer les nouvelles techniques. Écoutez, on est embêté pendant 15 jours, on va vendanger la nuit. Je veux dire, on n'est pas idiots les uns les autres. On peut apprendre des cultures des autres. Mais là, on dirait qu'ils ont le droit. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, par contre, dans les familles paysannes, les enfants partis en ville sont très écolos. Parce qu'ils ont quelque part une culture de la nature. Moi, je crois beaucoup aux enfants d'agriculteurs pour booster les mutations à l'intérieur des familles.
La paysannerie française est encore en phase de mutation. Une agriculture bio de proximité se développe et représente 20% des exploitations. Une agriculture plus ancienne, plus productrice, se transforme lentement tout en essayant de survivre. Depuis 2016, la France perd environ 5000 agriculteurs par an.
Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur 14. Verleihung des Mestemacherpreises Spitzenvater des Jahres.
Et on terminera cette émission par notre chronique en un mot. Nous avons choisi cette semaine le mot Spitzenvater, super papa en allemand. Chaque année, on élit en Allemagne le Spitzenvater des Jahres, le super papa de l'année. L'an dernier, le prix a été décerné au mari de la première femme astronaute allemande. Et cela a déclenché un vif débat outre-Rhin. En effet, pourquoi récompenser un père qui fait ce que font presque toutes les mères allemandes? Explication de Déborah Berlioz.
Peu importe les températures, il y a toujours du monde sur les aires de jeu de Berlin. Cet après-midi, on croise d'ailleurs plusieurs papas qui poussent leurs bambins sur les balançoires ou les encouragent à descendre le toboggan. Norbert vient régulièrement avec ses deux enfants. Pour la naissance du dernier, il a même pris 7 mois de congé parental. Il pourrait donc prétendre au prix du Spitzenvater des Jahres, du super papa de l'année. Mais cette récompense le laisse un peu perplexe.
On ne mérite pas un prix juste parce qu'on prend un congé parental. Cela devrait être parfaitement normal. Mais comme ce n'est pas encore la norme, peut-être que ce prix est une manière légitime d'attirer l'attention sur le sujet.
En Allemagne, les pères peuvent prendre un congé parental à partager avec la mère. Il dure maximum 14 mois. Et pendant ce temps, les deux parents sont rémunérés 67% de leur salaire net. Depuis l'instauration de ce système en 2007, de plus en plus de papas prennent une pause pour pouponner. Toutefois, ils ne sont encore qu'un tiers à le faire, et parmi eux, la plupart ne s'arrêtent de travailler que 2 mois. A l'inverse, plus de 90% des mères prennent un congé parental, et elles s'arrêtent en moyenne une année complète. C'était le cas de Verena, maman d'une petite fille de 15 mois.
C'est toujours facile pour une femme de faire le choix de rester à la maison, car beaucoup de choses le justifient, comme le fait d'allaiter, par exemple. De plus, dans mon cas, c'était une situation assez typique où le père gagne beaucoup plus que moi.
La question des finances est en effet la première raison citée par les pères qui renoncent au congé parental. La deuxième, c'est qu'ils ont peur pour leur carrière. Quant aux mères, si elles s'arrêtent souvent un an, c'est aussi parce que ici, on met rarement un enfant à la crèche avant son premier anniversaire. La fille de Verena y est allée à 11 mois. Et c'était déjà tôt pour la jeune femme.
J'ai grandi en Allemagne de l'Ouest et j'ai donc grandi avec l'idée qu'une mère qui met son enfant à la crèche avant 3 ans est une mère corbeau.
Et oui, car si en Allemagne il existe un mot pour dire super papa, le Spitzenvater, il en existe surtout un pour désigner celle qu'on accuse d'être une mauvaise mère. C'est la Rabenmutter, la mère corbeau, celle qui délaisse ses enfants. Car beaucoup d'Allemands restent persuadés que les jeunes enfants ne doivent pas passer trop de temps à la crèche. Et c'est une inclination regrettable, selon Bettina Hanover. Elle est enseignante à l'Université libre de Berlin, spécialisée en sciences de l'éducation et en psychologie.
En Allemagne, les parents ont peu confiance dans les professionnels de la pédagogie et de l'éducation. Il y a encore quelques années, l'idée de laisser les enfants à une personne étrangère déclenchait de fortes résistances dans de nombreuses familles.
Et cela n'était pas sans conséquences pour les femmes.
Durant ma carrière de professeur, j'ai accompagné beaucoup de jeunes femmes. Et dans le passé, ces femmes faisaient un choix. Soit elles faisaient des enfants, soit elles faisaient une carrière scientifique.
Résultat, 28% des femmes diplômées du troisième cycle n'avaient pas d'enfants en 2008. Cette proportion recule doucement, notamment grâce à des mesures comme le nouveau congé parental. Et la part des mères qui travaillent est passée de 65 à 74% ces 10 dernières années. Toutefois, nous sommes encore loin de l'égalité. Aujourd'hui encore, les hommes allemands n'assument que 37% des tâches ménagères. En cela, ils font quand même mieux que leurs voisins français. Selon l'INSEE, ces derniers n'effectuent que 29% des tâches domestiques.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se dit à demain.
Bonjour,